Voilà, on termine ce soir. Promis, on termine avec l'éthique chrétienne sur le couple. Alors, en discutant tout à l'heure avec Philippe, il me demandait « Alors, quel couple tu vas choisir ?» Et il me disait « Pourquoi tu ne prends pas Saphira et Ananias ?» Vous connaissez ou pas le couple de Saphira et Ananias ? C'est très court et ils finissent pas très bien. Hein. Voilà. Non, ce soir, j'ai choisi un autre couple. Mais voilà, le titre, en tout cas, que j'ai donné pour ce partage ce soir, c'est « Le couple, un engagement inscrit dans une alliance ». Je crois que, et je l'avais dit dimanche, mais le mariage, ou la vie de couple, mais en tout cas sous l'effigie du mariage, est vraiment une vie, mais c'est surtout, c'est un défi d'une vie, mais c'est surtout un engagement de chaque jour. Parce que je pense que si l'on veut bâtir un mariage stable, un mariage solide, la question de l'engagement ne doit jamais être remise en question. Et ce, même lorsque eh bien, notre couple peut traverser une phase difficile. Et l'engagement, vous savez, c'est simple, c'est facile quand tout va bien. C'est facile de s'engager, c'est facile d'être engagé avec son épouse quand tout est bien. Mais lorsque vient une difficulté, lorsque vient une épreuve, ou lorsque, eh bien, des fois, il peut y avoir des tensions entre nous dans le couple, eh bien, c'est là que ça devient un peu plus difficile. C'est là où, justement, on a cette tendance à vouloir, eh bien, ne plus être engagé. Et j'ai regardé un petit peu les statistiques. Donc, je vous mets quelques chiffres. Les statistiques, depuis 2005, montrent que la France enregistre en moyenne plus de 130 000 divorces chaque année. Mais depuis 2021, ce chiffre tend à diminuer pour un total de 106 200 divorces. Alors cette baisse, elle s'explique principalement par la diminution, en fait, enfin l'allègement de la procédure de divorce, qui nécessite plus l'intervention d'un juge. Ensuite, j'ai noté aussi qu'il y avait 45% des mariages qui se terminent par un divorce. Donc ça reste quand même un chiffre assez important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 45%, c'est quand même énorme. Et autre chiffre aussi, c'est que la durée d'un mariage en France est de 15 ans, avec un risque élevé de séparation dès la cinquième année de vie de couple. En fait, souvent c'est 5 ans parce que c'est lié en fait, aussi à l'arrivée d'un enfant. Vous savez que l'arrivée d'un enfant dans un couple, ben, c'est beau, c'est joyeux, mais ça pleure, ça se réveille la nuit, ça doit préparer des biberons, etc. Du coup, ça provoque aussi des tensions dans le couple. Et si le couple eh bien, ne prend pas la décision, ne fait pas le choix en tout cas, ou ne se prépare pas eh bien, à toutes ces éventualités qui arrivent avec l'arrivée d'un enfant, eh bien, des fois ça peut être tendu. Personnellement, c'est ce qu'on a vécu avec Marie-Valérie. À un moment donné, on s'est retrouvés avec voilà, nos enfants à un an d'écart à chaque fois, donc on en a quatre, mais bientôt cinq. Mais du coup, on s'est retrouvés avec le troisième à naître. L'aîné avait déjà 2 ans, la deuxième 1 an et le troisième. Et je peux vous dire que des moments tendus, on en a eu. Vraiment. Au point où j'étais irritant. Je perdais de patience parce que bah, dès que l'enfant il pleurait, il fallait y aller. Et finalement, ça avait quand même eu une incidence sur notre couple. Et par la grâce de Dieu, on s'est posé, on s'est remis en question et on a fait en sorte à ce que bien, on puisse prendre encore du temps privilégié entre nous. Et c'est important pour ceux et celles, en tout cas, qui aspirent à avoir un enfant, bah, pensez avant tout à votre couple. Bien sûr, ne délaissez pas votre enfant, ne le laissez pas sur le côté, mais pensez vraiment à votre couple, préservez votre couple, c'est hyper important. Nous, on a su eh bien, les faire garder et privilégier des temps, voilà. Peut-être un resto le soir, etc. Et c'était peut-être pas tout le temps, mais c'était assez régulier pour que ça nous permette ben, d'être renouvelés dans notre amour dans le couple, dans notre unité dans le couple. Et aujourd'hui, eh bien, on peut voir des couples divorcés pour plusieurs types de raisons. Alors, je mets encore de côté hein, les exceptions, violences conjugales et tout ce qui peut être adultère. Mais je crois qu'un mariage ne peut pas subsister sans un engagement total entre deux personnes. C'est un engagement journalier l'un envers l'autre, peu importe les épreuves de la vie. Alors, pour ceux qui se sont mariés, est-ce que vous vous souvenez des paroles du maire ou du représentant du maire lorsque vous vous êtes mariés? Qui se souvient encore de ces paroles? Non? Pourtant, il a dit des belles choses, le maire. Hein? Alors, je vous donne un exemple de ce que peut-être vous avez entendu ou ce que vous allez entendre, vous qui aspirez à vous marier. Un petit exemple, c'est le maire qui parle. Vous venez de prononcer le plus court des engagements, un simple oui. Mais qui a les conséquences les plus longues? Une vie entière. Le code civil que je viens de vous lire rappelle des obligations claires. Respect, fidélité, assistance. Mais entre nous, il ne dit rien sur des sujets pourtant cruciaux. Qui range le lave-vaisselle? Qui tient la télécommande? Ou qui aura le dernier mot? Alors rassurez-vous, la réponse est simple, c'est la personne qui a dit oui le plus fort aujourd'hui. Sinon, je vous laisse négocier ces clauses entre vous. Voilà, il sait très bien se décharger de certaines choses. Hein. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'il rappelle quand même des notions importantes. Respect, fidélité, assistance. Et ça fait partie du code civil, articles 122 et 123. Non, je l'ai dit parce que je l'ai lu avant, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, je ne connais pas le code civil en entier. Hein. Dans tous les cas, l'engagement dans un mariage, c'est comme, vous savez, une signature sur un contrat dont les pages sont encore blanches. Et chaque jour, nous devons le remplir ensemble, en restant à l'écoute de chacun, mais surtout à l'écoute de Dieu. Autrement dit, le couple doit s'inscrire dans une réelle démarche d'engagement au quotidien, l'un envers l'autre et à l'égard de Dieu. Et pour cela, on parlait de couple, donc je vais terminer avec un couple. J'aimerais voir avec vous le cas d'un couple qui aurait pu être séparé, mais ça n'a pas été le cas. Il s'agit donc du couple de Joseph et Marie, un couple de foi à l'écoute de Dieu. Dans ce couple, on parle beaucoup de Marie. Pourquoi ? Parce que c'est elle à qui Dieu va annoncer par le biais de l'ange Gabriel que Jésus, le sauveur de l'humanité, eh bien, va venir par elle. Donc on connaît très bien Marie, on sait que c'est elle qui va faire naître Jésus, qu'elle va tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit, et donc mettre au monde le Sauveur. Mais on ne parle pas souvent de Joseph son fiancé. Et en fait, quand on lit les passages, on voit que Marie, elle était vraiment dans une joie. Une joie quand elle a appris qu'elle va mettre au monde le Sauveur, elle était vraiment dans une joie. Mais cette joie n'était pas forcément partagée avec son fiancé Joseph. On lit par exemple dans Matthieu chapitre 1 et au verset 18 et 19, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Donc lorsque Joseph apprend cette nouvelle, parce que Marie l'annonce bien sûr à son fiancé Joseph, première chose que Joseph pense, c'est pas de se réjouir, d'être content. Hein. C'est il cherche tout de suite à mettre un terme à cette relation. Et pour Joseph, c'était pas normal. C'était quelque chose qui devait pas arriver. C'était pas, je pense que dans la compréhension de Joseph, il était pas prêt à ça. C'était pas normal que Marie puisse tomber enceinte alors qu'ils étaient, eux, dans cette période de fiançailles, qu'ils allaient aboutir finalement au mariage. Parce qu'être enceinte sous-entend que Marie a dû avoir une relation intime avec quelqu'un. Et si Joseph entreprend l'idée ici de se séparer d'elle, c'est que c'était pas avec lui qu'elle avait eu cette relation. Vous comprenez ? Déjà, Joseph adopte là ici une attitude de respect malgré tout parce que il a su écouter, il a su encaisser peut-être cette nouvelle, mais sans manifester de la colère. En tout cas, le passage biblique ne le dit pas. Peut-être qu'au fond de lui, c'est ce qu'il a ressenti. Mais dans les faits et dans sa manière de réagir, après, on voit bien qu'il est resté dans le respect. Joseph est donc confronté à un dilemme ici, parce que je pense qu'il aime vraiment Marie. Mais d'un côté, il envisage sérieusement de se marier, d'aboutir à ce mariage. Mais il ne peut plus, parce qu'elle est soi-disant enceinte du Saint-Esprit. Et de l'autre, s'il se sépare, il ne veut pas non plus que toute la honte puisse s'abattre sur elle. La Bible nous dit que Joseph, c'est un homme juste, un homme bon. Et Joseph avait le sens des valeurs. Et il décide en réalité, ici, de rédiger une lettre comme la loi de Moïse le stipule. On lit ça dans Deutéronome chapitre 24 au verset 1. C'est ce que la loi disait. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Et la réalité, c'est que le sort qui aurait pu être infligé à Marie dans cette situation était aussi d'une violence extrême, selon la loi de Moïse. Deutéronome 22, versets 23 à 24. « Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Donc c'était quand même risqué. Selon ce que Joseph allait faire, une sentence pouvait tomber sur Marie. Mais dans la nuit, alors que Joseph pensait bien fort à cette décision, à y réfléchir par rapport à ce qu'il allait faire, ce qu'il allait donner comme suite à ce que Marie lui a partagé, un ange va venir se révéler et parler de la part de Dieu pour lui confirmer les paroles que Marie avait reçues. Dans Matthieu chapitre 1, versets 20 à 25, on lit ceci. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est spécial parce que là, c'était quand même le Fils de Dieu, Dieu incarné en personne, en être humain. Donc c'était normal à la limite que Joseph accepte. Mais moi, je mettrais un petit bémol. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Et Joseph avait encore, dans cette situation, le libre arbitre. Il avait le choix, soit d'accepter, soit de refuser. Il pouvait soit se dire, ok, d'accord, on y va, je vais faire en sorte à ce que ça, tout puisse bien se passer, ou alors il aurait pu se dire, non, mais attends, c'est pas pour moi ça. Moi, je veux pas ça. En réalité, Joseph avait trois choix lorsque Marie lui annonce qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. La première chose qu'il pouvait avoir, c'était le premier choix qui s'offrait devant lui, c'était d'être réfractaire et donc de l'accuser en l'amenant devant les anciens de la ville. Et là, du coup, ça amène donc à une mort par lapidation. Et on peut penser à cette femme adultère que des pharisiens vont emmener devant Jésus. Vous vous souvenez de ce passage ? La deuxième chose que Joseph aurait pu faire, c'est effectivement de divorcer, entre guillemets, en écrivant cette fameuse lettre qui ne mentionne pas le motif, mais qui lui donne du coup la raison de pouvoir se séparer de Marie, tout en préservant quand même une certaine dignité. C'est pour ça qu'il avait entrepris cette décision. Ou la troisième chose, c'était de l'épouser, en prenant le risque du déshonneur. Aujourd'hui, dans notre société, avoir des relations intimes avant le mariage, c'est normal pour le monde. C'est comme ça que fonctionne le monde. Mais à cette époque, c'était un vrai déshonneur, une honte. Et Marie, qui est enceinte, ne pouvait pas cacher son ventre à un moment donné. Si Joseph donc acceptait, forcément, les regards des gens, ça allait se voir. Au bout de 7 mois, ils auraient vu. Peut-être dans les premiers mois, on n'aurait rien vu, mais au bout d'un moment, ça serait vu. Et Joseph est confronté à ça. Mais lorsque la parole de Dieu est délivrée par l'ange, ça vient le rassurer dans son choix. Et Joseph a pris quoi ? La décision, en toute conscience, et a accepté de prendre cette responsabilité parce qu'il aimait, je pense, profondément Marie, mais parce qu'aussi il était engagé à aller jusqu'au bout avec elle. Et ce n'est qu'à la naissance de Jésus qu'ils ont pu eh bien, consommer leur mariage et avoir d'autres enfants. Parce que la Bible nous dit que Jésus avait des frères et sœurs. Après la naissance de Jésus, Joseph et Marie auraient pu eh bien, se dire que tout irait bien. Hein? Joseph aurait pu se dire, « Ok Seigneur, j'ai accepté ce que tu m'as confirmé, tu m'as rassuré, tu m'as dit que voilà, il faut que j'aille avec Marie. » Et à la limite, là, dès que Jésus naît, ils peuvent se dire, bon, bah, c'est bon, on a fait la volonté de Dieu, on y va et tout va bien se passer. Mais en fait, non. Tout de suite, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des situations compliquées. Parce qu'après le passage des mages, bien, le roi Hérode, lui, il va décider bien, de tuer tous les premiers-nés dans tout le pays. Simplement pour préserver sa place de roi. Parce que, eh bien, un bébé pouvait être une menace pour lui. Donc Dieu va envoyer un ange avertir Joseph de partir se réfugier en Égypte pendant un temps. Et lorsque eh bien, le roi Hérode sera mort, eh bien, Dieu va renvoyer à nouveau un ange pour parler à Joseph et donc lui dire de revenir. Alors ici, j'aimerais juste eh bien, peut-être noter certaines choses sur lesquelles on peut retenir par rapport à Joseph et à Marie. Joseph, tout d'abord, a été à l'écoute de Marie, même si cela n'a pas dû être facile pour lui. Ensuite, il a été aussi à l'écoute de Dieu, à chaque moment. Il choisit de croire à l'ange de Dieu en prenant le risque du déshonneur. Et même après la naissance de Jésus, il continue eh bien, d'écouter Dieu. De son côté, Marie, elle, a su écouter donc, l'ange Gabriel lorsqu'il lui a annoncé la nouvelle. Elle a su aussi eh bien, partager ce qu'elle a reçu de Dieu à Joseph en prenant le risque que tout puisse se briser. Parce que lorsque Marie annonce à Joseph, Marie n'avait aucune certitude que Joseph n'allait pas casser avec elle. L'ange n'était pas encore venu se révéler à Joseph. Donc elle a fait là, effectivement, ce qu'on peut appeler une démarche de foi. Parce qu'elle a mis sa confiance sur la parole que Dieu lui avait donnée, qu'elle a partagée avec son fiancé Joseph. Mais elle ne savait pas si ça allait fonctionner ou si... voilà. Ensuite, elle a su être à l'écoute de Joseph parce qu'à chaque instant, on voit que bien, elle suivait Joseph parce qu'elle lui faisait confiance. En fait, dans ce couple, on peut déjà noter que la communication eh bien, semblait quand même être bonne dans ce couple. Et vous savez, on l'a dit, et vous le savez certainement, que la communication dans le couple est un pilier. Et là, dans ce couple, eh bien, on voit bien que la communication est liée. Ils se communiquent, ils partagent même des choses spirituelles. Vous savez, dans un couple, je pense que, surtout quand les deux sont chrétiens, il ne devrait pas y avoir de malaise à partager ce que Dieu met sur notre cœur et à partager peut-être des rêves, des songes, des pensées que Dieu nous partage et avoir vraiment cette liberté de le partager avec notre conjoint. Bien sûr, dans un cas où il n'y a qu'un seul chrétien et un inconverti, c'est un peu plus compliqué. Mais dans ces cas-là, on va le partager peut-être avec un frère ou une sœur ou avec un pasteur. Voilà, on cherche bien sûr une autre alternative. Et on pourrait dire finalement que dans le couple de Joseph et de Marie, ils ont su donc être à l'écoute l'un de l'autre, mais ils ont su aussi être à l'écoute de Dieu. Si Joseph et Marie eh bien, n'avaient pas été sensibles à la voix de Dieu, je ne pense pas qu'ils auraient pu accomplir ce que Dieu avait prévu. Ils ont été à l'écoute, mais ils ont été aussi obéissants. Et je pense que ce sont deux notions qui sont importantes. La foi, l'écoute, enfin la foi, mais surtout la foi et l'obéissance, pardon. Et on pourrait dire finalement que l'engagement de Joseph et Marie, et ça c'est moi qui le dis, c'est comme ça que je vois les choses, l'engagement de Joseph et Marie a donné naissance à la nouvelle alliance. Car de ce couple est né le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Et lorsque on parle d'alliance dans un couple, vous savez, on pense souvent eh bien, à cela. Voilà, c'est à ça qu'on pense quand on parle d'alliance dans un mariage. L'alliance, le bijou, un anneau d'or ou d'argent qui symbolise l'union contracté par le mariage entre un homme et une femme. Donc il peut aussi porter, peut aussi s'appeler bague ou anneau de mariage. Et puis dans certains contextes, ça peut être mon précieux, okay, pour ceux qui ont la ref. Mais l'alliance, c'est beaucoup plus qu'un objet de valeur. L'alliance, c'est beaucoup plus qu'une mode, c'est beaucoup plus qu'un symbole. Il caractérise en fait l'engagement mutuel de deux personnes. Et le couple de Joseph et Marie nous montre qu'ils étaient tous les deux engagés, l'un envers l'autre, mais aussi parce qu'ils se sont engagés dans les choses de Dieu. Et tout au long de la Bible, lorsque l'on parcourt les Écritures, on voit que la relation entre Dieu et son peuple est décrite comme étant une alliance. Autrement dit, Dieu s'est toujours engagé envers l'humanité. Du jardin d'Éden, en passant par Noé, Abraham, Moïse et ainsi de suite, Dieu s'est toujours engagé à bénir son peuple et à lui être fidèle. Et la différence que l'on doit faire, eh bien, c'est, je ne veux pas rentrer en détail dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais entre l'alliance, l'ancienne alliance pardon, et la nouvelle alliance. En fait, la différence vraiment qu'on doit retenir, c'est surtout au sujet du salut. C'est-à-dire le fait d'être sauvé. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait respecter toute la loi de Moïse. Et c'était impossible. Un homme ne pouvait pas la respecter. Et le but, en fait, de cette loi, c'était de révéler et de condamner le péché. Mais aussi pour montrer eh bien, que l'homme ne pouvait pas eh bien, être parfait, ne pouvait pas parvenir à une forme de être bon, finalement, et qu'il y avait besoin d'autre chose pour ça. Et c'est pour cela qu'il y avait donc des sacrifices d'animaux avec du sang, pour demander pardon. Et la loi était comme un pédagogue. C'est ce que Paul rappellera aux Galates dans chapitre 3 et au verset 24 et 27. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, a institué la nouvelle alliance. C'est ce que Jésus va rappeler, vous souvenez, quand il va prendre le repas avec ses disciples, dans Luc chapitre 22 et au verset 19 et 20, il va dire ceci. Il prit du pain, Jésus, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » En Jésus-Christ, nous avons cette foi que nos péchés sont pardonnés, que nos fautes sont effacées. Et nous pouvons avoir la conviction d'être sauvés. Et pour ça, il nous faut juste croire. Croire en Jésus. Croire qu'il a payé le prix sur la croix pour nous. Croire qu'il est notre sauveur. Croire qu'il est ressuscité pour moi. Et parce que je crois, parce que je mets ma foi en Dieu, en Christ, alors je suis sauvé. J'ai l'assurance d'être sauvé. Donc Dieu s'est engagé d'une manière concrète, en offrant son propre fils pour que nous soyons sauvés. Sa chair a été percée, le sang a coulé sur le bois de la croix pour nous. Et déjà, c'est une belle promesse et un beau cadeau pour quiconque croit en Dieu, qu'il ait la vie éternelle. Et on n'a rien en contrepartie. On n'a rien à faire d'autre si ce n'est que d'accepter ou pas. Encore une fois, libre arbitre, le choix nous est donné. Dieu s'engage à nous offrir une vie éternelle alors que nous sommes destinés à une mort dans notre péché. Mais Dieu s'est engagé en offrant Jésus-Christ, son Fils, et le choix nous appartient encore aujourd'hui. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Est-ce que je place ma foi en Jésus ou est-ce que je ne le fais pas? Mais ce n'est pas fini. Parce que Dieu promet aussi d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Dieu nous promet de nous bénir, d'être fidèle avec nous, d'être chaque jour eh bien, un rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Dieu nous promet aussi de nous guérir, de nous délivrer. Il nous a aussi pour cela envoyé la personne du Saint-Esprit. On l'a entendu encore ce soir dans une prière, qu'il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit pour que nous menions une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu. Et la question que j'aimerais poser, c'est « Et nous, derrière ?» Et nous, que fait-on de ça ? Parce que on parle d'une alliance nouvelle. Et dans une alliance, ça nécessite toujours un engagement mutuel. Quel est notre engagement envers Dieu ? Nous n'avons pas besoin de faire de sacrifices d'animaux. C'est plus la peine de faire ça. On n'a pas non plus besoin de faire tout un tas de choses. Seulement la foi et l'obéissance. Ce que Joseph et Marie ont expérimenté et démontré en tant que couple. Mais c'est aussi ce qu'on fait, tout ce que la parole de Dieu peut nous citer comme les héros de la foi. Foi et obéissance. Quel est notre engagement maintenant envers notre époux et notre épouse ? Jusqu'à où irons-nous avec notre époux et notre épouse ? Et je crois que, je termine avec ça, je crois que l'alliance que Dieu a faite envers l'humanité au travers de Christ doit grandement nous inspirer dans notre marche chrétienne personnelle, mais aussi dans notre vision de couple. Parce que Dieu a des bénédictions en réserve pour nous, et nous devons aspirer à être engagés dans notre couple l'un envers l'autre. Et inscrire cet engagement dans l'alliance de Dieu en faisant preuve, de foi et d'obéissance pour réaliser les promesses que Dieu a prévues pour chacune de nos vies. Amen. Voilà ce que j'avais envie de partager, ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Je vous propose de terminer dans la prière alors. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole. Merci parce que comme elle est vivante, elle vit en nous et nous voulons, Seigneur, la mettre en pratique. Mettre, Seigneur, en exercice notre foi et notre obéissance en toi. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es celui qui nous communique. Tu es un Dieu qui parle d'une manière, qui parle d'une autre. Alors apprends-nous, Seigneur, à être sensible à ta voix. Tout comme, Seigneur, mon Dieu, Joseph a pu être sensible à ta voix. Tout comme, Seigneur mon Dieu, Marie a pu être sensible à ta voix. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que nous ne nous arrêtions pas au stade de simplement de t'écouter, mais Seigneur mon Dieu, de nous aider, Seigneur, à mettre en action notre foi. C'est vrai, plus qu'un engagement, c'est notre foi que nous voulons mettre en action sur les paroles, Seigneur, que tu nous communiques. Et je te prie que nous puissions aussi être, Seigneur, dans cette dimension d'obéissance, Seigneur mon Dieu, lorsque tu nous parles. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à étendre, Seigneur, les tentes de notre raison, de nos vies, Seigneur mon Dieu, pour que la foi, Seigneur, et l'obéissance puissent se manifester, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment ton bras puisse agir, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci vraiment de faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu. Et je te prie ce soir d'encourager, Seigneur, tous les couples. Seigneur, les couples qui te connaissent tous les deux. Je te prie que tu sois encore au milieu de leur relation. Seigneur, je te prie pour que ces couples soient des pleines bénédictions, qui entrent pleinement dans les projets, les promesses que tu as prévues pour eux. Comme tu as prévu pour Joseph et Marie, que le Sauveur allait naître, Seigneur, tu as encore des bénédictions en réserve que nous n'avons même pas idée, Seigneur. Alors je te prie que vraiment tu encourages par l'assistance de ton Saint-Esprit tous nos frères et sœurs qui sont en couple, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont un conjoint, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas. Seigneur, encourage, Seigneur, ces personnes, ces frères et ces sœurs, afin qu'ils soient des témoignages puissants, que tu les amènes, Seigneur, dans leur foi, Seigneur mon Dieu, à ce qu'elle soit une foi véritable, une foi en action, pour que, Seigneur, elle soit, Seigneur, une lumière pour le conjoint, une lumière, Seigneur mon Dieu, pour notre Église, qu'elle soit une source aussi d'encouragement. Et je te prie vraiment vraiment de bénir notre Église, de bénir aussi ceux et celles qui ne sont plus en couple. Je pense, Seigneur, à des personnes veuves ou veufs, Seigneur, ou peut-être qui ont reçu, Seigneur, le don du célibat, afin qu'ils soient des témoignages d'encouragement, Seigneur, mon Dieu, pour les couples. Que tu leur donnes, Seigneur, vraiment d'être vraiment des intercesseurs dans la prière, Seigneur, parce que le diable n'a qu'une volonté, c'est de diviser les couples. Alors je te prie, mon Dieu, mon roi, vraiment d'étendre tes mains dans ton Église, pour que ton Église puisse être une bénédiction, Seigneur, et qu'elle puisse rayonner, Seigneur, là où tu l'as placée, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne soirée, et à jeudi soir.